Kevin, il me semble que ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Comment ça va?
Ça va bien, et toi?
Ça va bien, je pense. Ben, ça fait notre semaine réglementaire, donc 7 jours réglementaires pour un film d'1 heure et demie réglementaire, pour un épisode de 30 minutes réglementaire. Mais non, on fait des blagues, on fait des blagues. Re-bienvenue, évidemment, en rembobinage. On se parle, on a un épisode intercalable. En fait, c'est intercalable. Ça sonne péjoratif. C'est qu'on est, vous le savez, là, vous êtes tous des passionnés de l'émission, vous nous écoutez religieusement chaque semaine. Non, je fais des blagues, mais on est dans notre spécial Halloween, comme à chaque mois d'octobre. Et là, on a déjà fait Phantom of the Paradise la semaine dernière, qui était un film complètement déjanté et excessivement kitsch et tout à fait incroyable. Et la semaine prochaine, parce que là on est le 23, donc la semaine prochaine, avant qu'octobre se termine, on va vous présenter The Last Voyage of the Demeter, donc notre film d'horreur, thriller, suspense, de peur, contemporain. Mais en attendant, on a décidé de prendre un petit film comme ça, peu ou pas connu, qui a juste gagné la Palme d'Or à Cannes cette année. Alors, qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, Kevin?
On a écouté Anatomie d'une chute, qui, comme tu le dis, a remporté la Palme d'Or. Puis si je peux raconter rapidement l'histoire de
Oui.
pourquoi on a subitement interrompu l'Halloween pour parler de ce film-là,
Oui.
c'est que pendant le Festival du Nouveau Cinéma, ce film-là était présenté et tous les deux, on avait un intérêt pour l'inclure dans notre épisode sur le FNC. Finalement, on n'a pas eu l'occasion de voir le film à temps pour l'épisode, mais tout juste il y a quelques jours, on a fait, ah, OK, là, on pourrait le voir, le film qui sort en salle le 27 octobre. Donc, on s'est dit, bon, prenons une petite pause de l'Halloween et attaquons-nous à la Palme d'Or.
Voilà, exactement. On a quand même déjà parlé de plusieurs, au moins une autre palme d'or, si je ne me trompe pas, c'était Titan, c'est bien ça?
Ah oui, avec Raphaël Ouellette, il y a quelques
Oui.
années.
Voilà, ce film-là aussi était assez particulier. On n'est pas dans le même registre cette année, mais effectivement, Palme d'Or, ben donc ça, tu l'as mentionné, on voulait. Moi, j'avais vu la bande-annonce d'Anatomie d'une chute, ça avait l'air bien, intéressant, ça avait l'air intéressant. Et c'est ça, ça vous fait un FNC, ça n'a pas fonctionné. Il était au TIFF, je pense, à Toronto. Et ça n'a pas fonctionné non plus. Ben, en même temps, généralement, on couvre pas le TIFF, là. On n'est pas à Toronto. Mais peut-être un jour, peut-être qu'on pourra se démultiplier éventuellement puis qu'on fera un road trip jusqu'à Toronto. Mais donc, c'est ça. Et voilà, là, ça tombe. On tombe directement dedans, là, comme tu disais, le film sort vendredi. Donc, on vous en parle maintenant. Anatomie d'une chute qui s'inscrit, je pense, dans une série de films policiers, judiciaires, qui parlent un peu d'enquête ou de procès, ça correspond pas je vais pas dire des clichés, mais ça correspond pas à ce qu'on sait d'habitude des films de poursuites devant les tribunaux, d'enquête sur des meurtres ou des suicides, ou en tout cas, dans ce cas-ci, c'est un peu mystérieux. C'est souvent des réalisateurs qui prennent ce modèle-là et qui le changent. Qu'il vire un peu sur lui-même, donc qui essaie de changer les codes, qui essaie de surprendre les spectateurs, pas nécessairement avec une révélation surprise, puis là, on se rend compte que finalement, le meurtrier, c'était le majordome dans la salle de bal avec le tuyau de plomb. Mais ça fait quelques films, je pense, que, en tout cas, que moi, je vois, et je pense qu'on en avait parlé d'un film de ce genre-là il n'y a pas tellement longtemps. Ça se passe dans un petit village de France et le titre m'échappe là, mais cette affaire-là reste dormante pendant des années. Est-ce que tu te souviens de...
Hey, j'ai un blanc. J'essaie de penser de quel film on aurait parlé.
OK.
Un
Parce que
village.
c'était une jeune femme qui sort, qui rentre chez elle. Peut-être qu'on
Ah,
n'a pas fait d'épisode.
Maigret?
Non, mais en tout cas, bref, il y
Non?
avait eu un film. Peut-être qu'effectivement, c'était juste une critique écrite que j'en ai faite.
Ah, OK,
Mais il y a un
bon.
film policier, pas tellement longtemps, où justement, c'est une jeune femme qui rentre chez elle, découverte morte, assassinée. Et là, on se demande qui l'a tué, puis on essaie de trouver. Puis finalement, c'est ça, c'est une histoire qui dure très, très, très longtemps et on n'arrive pas, bon, à éclaircir ce mystère-là. Mais bref, revenons à nos à nos moutons. À l'anatomie d'une chute, bon. Je l'ai un peu mentionné, c'est l'histoire d'une enquête d'abord et ensuite l'histoire d'un procès. Ça se passe en Savoie, donc pas loin de Grenoble, donc en France. Et il y a un couple qui est Sandra Voiter et Samuel Maleski ont un enfant ensemble, ils ont un garçon maintenant, je pense, de 11 ans, et ça va pas bien dans leur couple. Éventuellement, il y a un moment donné où, bon, Sandra Voiter est une autrice reconnue, elle a plusieurs livres à son actif, est assez célèbre. Elle reçoit une étudiante chez elle dans une espèce de chalet de campagne que le couple essaie de retaper. Et tout de suite, en début de film, bon, on se rend compte que le mari qu'on ne voit pas, le mari met de la grosse musique. Je pense que c'est une version steel drum de 50 Cent ou quelque chose comme ça.
Oui, de P.I.M.P.
Voilà, exactement. Je suis pas du tout un connaisseur de 50 Cent. Mais bref. Et c'est une musique qui est vraiment mise très, très forte. Et éventuellement, le fils part se promener avec son chien. L'étudiante quitte parce que là, il dit, Sandra Voiter dit, ben, c'est beaucoup trop fort comme musique. On s'en reparlera, on fera ça à Grenoble, nanana. Et là, donc, le mari et la femme sont seuls dans le chalet. Et quand le fils revient de sa marche avec son chien, quelques minutes plus tard, bon, on sait pas trop combien de temps, mais certainement pas plusieurs heures, le mari est mort à l'extérieur, victime d'une chute ou d'autres choses. En tout cas, il est par terre à l'extérieur du chalet. Et là, c'est ça, mystère, enquête. Et on suit ça donc tout le long du film. Pendant quand même 2h30, dis-moi Kevin, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Anatomie d'une chute?
J'ai beaucoup aimé le film. Évidemment, j'avais des attentes. Quand un film remporte la Palme d'Or, on se dit, c'est probablement pas un navet.
Non.
Mais, tu sais, c'est sûr que chaque personne qui regarde un film peut avoir des intérêts différents. Même si ça gagne la Palme d'Or, ça se peut qu'on soit déçu ou qu'on ait une appréciation plus mitigée. Mais non, dans ce cas-là, je trouve vraiment que c'est un grand film. Tu sais, ça a gagné la Palme d'Or, qui est comme un peu meilleur film, mais tu sais, ça aurait pu être un prix du scénario, ça aurait pu être un prix de la mise en scène,
ouais.
Ça aurait pu être un prix de la meilleure actrice pour Sandra Hüller, qui joue le rôle principal. Il y a vraiment plein de grandes qualités dans ce film-là, puis j'ai bien hâte d'en parler avec toi, parce qu'il y a aussi, dans les thèmes qui sont abordés, il y a beaucoup de choses quand même.
Oui, absolument. D'ailleurs, il y a des moments où j'étais fâché. Mais bon, peut-être que toi aussi, en homme progressiste que nous sommes, je dis pas ça juste de façon très très sérieuse. Bref, j'ai beaucoup aimé aussi. Comme tu dis, on a des attentes. T'sais, bon, Palme d'Or, c'est toujours un peu particulier parce que tu sais pas, est-ce que c'est Palme d'Or parce que c'est un film qui est un peu bizarre, un peu audacieux, ou Palme d'Or parce que effectivement c'est très très bien joué, très bien scénarisé, tout ça, ou c'est un mélange des deux, ou pour une toute autre raison. Et j'avoue que j'écoutais le film et ça fait partie encore une fois de ces films-là disons que le déploiement est plus lent qu'à l'ordinaire. Encore une fois, déjà 2h30, moi j'ai vu que ça durait 2h30, je suis comme, OK, ça sera pas une course-poursuite, c'est pas de Mad Max Fury Road, puis tant mieux. Donc c'est ça sera pas 1h30, merci, bonsoir, c'est réglé. Là, c'est vraiment, on prend le temps de bien faire les choses. Bref, je suis rentré là-dedans, puis c'est ça, je me dis, OK, il y a effectivement enquête pour meurtre, ou en tout cas, on pense que la femme a tué son mari, bon. Je savais un peu que, bon, il allait vraiment s'attaquer à la personnalité de la femme, il allait s'attaquer à sa carrière, et une très, très longue partie du film, ben, c'est le fameux procès. Et donc, c'est ça, on découvre finalement le fonctionnement du couple par un peu avocat interposé. On découvre une profondeur de personnalité chez le personnage de Sandra Voiter, mais aussi toutes les contradictions d'un couple, quand ça va bien, quand ça va mal, l'espèce de colère des fois qu'on peut avoir envers quelqu'un qui partage notre vie, mais pas suffisamment pour se laisser, mais quand même, il peut y avoir du ressentiment, tout ça, puis éventuellement, ça explose. Est-ce que c'est assez pour tuer quelqu'un? Bon, toutes ces questions-là sont soulevées. Non, vraiment, là, j'ai été très impressionné et je ne savais pas jusqu'à la fin si effectivement il allait avoir cette fameuse révélation surprise de « Ah, c'est un accident parce qu'il glissait sur quelque chose » ou effectivement la femme a véritablement tué son mari parce que là, elle n'était plus capable de l'endurer ou quoi que ce soit d'autre. Donc, jusqu'à la fin, j'étais un peu sur le bout de mon siège en disant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, va-t-elle être reconnue coupable, bon, ainsi de suite. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le rythme, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est écrit. D'ailleurs, c'est Justine Triet, je pense pas qu'on avait mentionné son nom, là, qui a réalisé, co-scénarisé ce film-là. Est-ce que tu connaissais un peu son œuvre avant de voir le film?
Non, c'est le premier film d'elle que je vois. Je pense qu'elle a réalisé 3 ou 4 autres longs métrages, mais je les ai pas vus encore.
Non, moi non plus. Ben, c'est ça, c'est pas une réalisatrice qui a un très long parcours. Donc, c'est peut-être un peu, ben, en même temps, ça veut pas dire qu'elle a pas de talent, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, gagner la Palme d'Or quand c'est ton 4e film, c'est, ça peut être assez spécial, peut-être, comme feeling. Je serais curieux de savoir comment est-ce qu'elle sent de la pression maintenant pour dire, faut que tous mes films soient des chefs-d'œuvre comme ça qui méritent la...
Ben, la réalisatrice de Titan, si je me trompe pas, c'était seulement son 2e long-métrage et tout de suite la Palme d'Or. Là.
Et écoute, c'est décidément, on n'a peut-être pas choisi... En même temps, clairement, c'est des gens qui sont très doués, là,
ben oui.
Qui ont l'œil pour ça. Nous, on n'a pas nécessairement de formation là-dedans. Qu'est-ce que tu as pensé? Parce que je pense que le gros de la discussion, ça va être le procès. Mm-hmm. Comment t'as trouvé la façon, en fait, dont le procès était présenté?
Ben, ce qui est particulier, c'est que tu disais en début d'épisode qu'on a vu des tonnes de films, de séries télé qui se passent dans le milieu de la justice, qu'on voit des procès, des avocats, des juges, tout ça. Mais bon, je sais pas toi, mais moi, personnellement, souvent, ça va être des séries ou des films américains.
Oui.
Donc, c'est vraiment le système de justice des États-Unis qu'on est habitué de voir, qui est très formaté... Il y a un témoin qui est appelé à la barre, qui témoigne, il y a un interrogatoire, il y a un contre-interrogatoire, puis ça dépasse pas vraiment de ça. Mais dans ce film-là, je pense que j'ai pas vu beaucoup de films qui se passent à la cour pendant un procès en France, parce que j'étais vraiment étonné du fonctionnement du procès. Il y a un côté un peu... On a l'impression que tout le monde a le droit d'intervenir n'importe quand.
Mm-hmm.
Pendant un témoignage, l'avocat pose une question à l'accusé. Évidemment, le juge intervient, mais c'est presque comme une discussion panel. Puis il y a quelque chose de très... Ben, c'est très français. On dirait qu'on est sur un plateau de télé. Tout le monde parle un peu partout. Fait que je sais pas si c'est réaliste, si c'est vraiment comme ça que ça se passe lors d'un procès en France, mais ça ressemble vraiment pas à ce qu'on voit dans les productions américaines.
Non, absolument pas. Et même, bon, j'ai l'impression qu'au Canada, c'est un peu moins formaté, mais quand même, c'est très structuré malgré tout. Là, ça ressemble beaucoup, en tout cas, de ce que moi j'ai vu dans les œuvres canadiennes ou québécoises qui se passent justement devant, dans le cadre d'un procès, ça reste très, très formel, bon, avec... Il y a pas les perruques, bon, comme en Angleterre, par exemple, mais il y a les robes d'avocat. Je sais même pas si dans le... Je pense que l'avocat de la cour, donc la poursuite a une espèce de robe d'avocat dans le film, mais autrement, c'est ça, comme tu le dis, ça s'interrompt, ça se pose des questions. Quand le témoin, bon, il peut avoir un témoin devant à la barre, par exemple, le fils du couple est appelé à témoigner, et là, t'as l'accusé qui est dans les gradins, va être interrogé à ce moment-là par l'avocat, va répondre, comme tu le mentionnais. C'est un peu particulier et moi, dans ma tête, c'était comme, ben non, quelqu'un va dire objection, quelqu'un va dire que c'est un oui-dire, quelqu'un va dire... On manque le contexte pour vraiment dire est-ce que c'est réaliste ou pas. Et je suis en train de chercher pendant qu'on se parle parce que je me souviens d'avoir vu un autre film qui parlait d'une histoire de meurtre et qui il y avait un procès justement et donc c'est un peu cette formule là je me dis j'écoutais ça puis je dis comment ça se fait que c'est pas structuré, comment ça se fait qu'il y a personne qui s'objecte justement à une question qui a pas de bon sens, parce qu'il y en a des allégations là-dedans dans ce procès là des trucs que même la défense va dire des trucs, puis tu dis voyons comment est-ce que tu peux affirmer ça. Que ce soit à la défense comme la poursuite, comment est-ce que tu peux affirmer ça et sans que quelqu'un te dise, voyons, ta question pas d'allure, t'es en train d'inventer des affaires, t'es en train de sous-entendre des trucs horribles. Quand je parlais tout à l'heure, tu sais, qu'on disait qu'on était des hommes progressistes, ce que je veux dire, c'est, il y a des moments donnés, la poursuite va dire, entre autres, vous avez invité chez vous, avant de parler de l'accusé, vous avez invité chez vous une jeune femme. Est-ce que c'était dans un objectif de séduction parce que vous êtes bisexuel? Mm. Est-ce que c'était pour frustrer votre mari? Est-ce que c'était pour telle affaire? Je me disais, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Et c'est un peu comme dire, c'est pas exactement la même chose, mais c'est comme dire, qu'est-ce que vous portiez le soir où vous avez été violé?
Oui, exactement.
Hey, tu dis, tabarnouche, en 2023, là, c'est à quel point est-ce que tu peux te baser là-dessus pour faire un procès? Toi, t'as-tu choqué?
Oui, oui, c'est vraiment choquant. Puis, il me semble que j'ai vu une entrevue avec la réalisatrice qui disait que ce qui avait inspiré l'écriture de ce scénario-là, au départ, c'était comme, pour elle, c'était comme un cauchemar que ta vie privée devienne ouais. publique, que comme un système s'empare de ta vie privée puis commence à la décortiquer. Puis c'est vraiment ça qui se passe dans le film. Comme tu disais, les exemples que tu donnais, il y a vraiment un côté intrusif, un côté humiliant. Le fait que, justement, elle, cette femme-là, est bisexuelle, le fait qu'elle a eu des infidélités dans son mariage, mm-hmm. Ils élèvent leur enfant, la répartition des tâches, les tensions dans le couple, tout ça est abordé, puis souvent de façon vraiment humiliante, là, je pense que c'est le mot que je veux revenir, humiliante et intrusive. Je sais pas si en France on appelle le procureur de la couronne ou je pense
peut-être pas la couronne général. Parce qu'ils n'ont pas de royauté là-bas.
Ouais, mais non, bref, ben, c'est ça, peut-être poursuite. Pas la couronne, mais l'avocat ouais. général ou celui ouais. qui représente en tout cas, peu importe. Lui est vraiment, c'est ça, il est vraiment méprisant puis condescendant puis paternaliste puis de la façon qu'il attaque littéralement l'accusé. Tu sais, on comprend que c'est son métier, mais il y a quelque chose de très, je trouve, presque misogyne dans la façon qu'il décrit puis qu'il essaye de faire des sous-entendus, là.
Non, c'est vraiment... J'étais fâché. J'étais mmh. vraiment fâché, puis j'avais le goût d'un peu de crier puis de dire, voyons, encore une fois, tu sais, bon, est-ce que c'est permis de faire ça en France? Est-ce que c'est juste pour le film? On sait que, bon, en France comme ailleurs, il y a toujours un petit fond de machisme, des fois, là, dans l'appareil judiciaire. On parlera pas d'affaires au Québec, là, notamment cet ingénieur qui a eu les mains, en tout cas, qui a fait des agressions sexuelles, là, mais il y a des cas comme ça, tu te dis, voyons, il me semble qu'on pensait avoir fait le ménage là-dedans, puis clairement, il y a encore, c'est ça, ces procureurs-là, ou ces juges-là, ou ces avocats-là qui pensent que, bon, parce que tu portais une mini-jupe, c'était un appel au viol, là. Pendant qu'on se parlait, c'est ça, je suis en train de chercher, bon, je te parlais de films avec un procès en France qui était différent, puis justement, c'était une façon différente de présenter les choses. Saint-Omer, c'est ça le nom du film, c'est sorti en début d'année, c'est réalisé par Alice Diop, et c'était très, très bon, puis ça parlait aussi de la question du racisme aussi là-dedans, puis tout ça, donc si jamais, bon, t'as envie d'écouter ça, ou si jamais nos auditeurs ont envie d'écouter ça, s'ils peuvent mettre la main là-dessus, je sais pas si c'est disponible en ligne ou ailleurs, mais c'était très intéressant, et le fameux film policier, je te disais, l'enquête qui piétine, s'appelle okay. La nuit du 12, tu l'as peut-être vu.
Ah, OK.
Voilà, donc La nuit du 12, encore une fois, un autre genre de film policier ou d'enquête policière, très, très bon, très intéressant, différent aussi, c'est une autre façon de voir le système, un peu comme, bon, comme on le mentionne en ce moment, comme Anatomie d'une chute. Côté, peut-être, on a parlé brièvement de l'interprétation, comment t'as trouvé justement Sandra Hüller? Bon, tu m'as dit que t'avais beaucoup apprécié son jeu. Là.
Oui, elle est vraiment extraordinaire. Puis c'est pas un rôle facile parce que dans un sens, on dirait que le film est un peu de son côté. On prend son parti puis on s'attache à elle. On veut pas nécessairement qu'elle soit condamnée, tout ça. Puis le fait que le film est co-scénarisé puis réalisé par une femme, on assume un peu que c'est le point de vue féminin, mais en même temps, il y a beaucoup d'ambiguïté dans le film, puis on doute quand même beaucoup de ce personnage-là. On se demande, comme tu disais, jusqu'à la toute fin, on se demande est-ce qu'elle est coupable ou pas, puis il y a plein de petits éléments à travers les témoignages et tout ça, les reconstitutions qu'on fait, ah ok, est-ce que ça se peut qu'elle ait tué son mari, puis dans le jeu de cette actrice-là, justement, à réussir à embrasser cette ambiguïté-là, on n'est jamais vraiment sûr quoi penser d'elle. Puis, tu sais, je sais pas si on a mentionné aussi, Sandra Hüller, c'est une actrice allemande.
Oui.
Et elle joue aussi, son personnage dans le film est d'origine allemande. Donc, pour elle, le français, c'est sa troisième langue. Mm-hmm. Et même si la majorité du procès se déroule en français, elle, souvent, elle parle un peu en français, mais elle, à un moment donné, elle switch en anglais parce qu'elle s'exprime mieux en anglais. J'imagine qu'elle s'exprimerait encore mieux en allemand. Mais bon, personne parle allemand au procès. Donc, il y a toute cette dimension-là linguistique aussi dans son jeu de... Quand elle parle en français, il y a aussi des hésitations, puis des fois, elle est peut-être pas sûre de comment s'exprimer. Puis quand elle est en anglais, ben là, c'est pas sûr si tout le monde la comprend bien. Fait que c'est quand même quelque chose à jouer, là, justement, toutes ces dimensions-là. Là.
Oui, ben absolument. C'est comme tu l'as mentionné, ça rajoute une couche d'incertitude. Est-ce que justement elle passe à l'anglais parce qu'elle est nerveuse? Est-ce qu'elle veut changer la façon de le sens de ses mots? Bon, puis effectivement, tu l'as mentionné, il parle des erreurs de traduction ensuite. Donc, est-ce que le jury va entendre les bonnes choses? Est-ce que le juge va entendre les bonnes choses? Et donc tout à fait, elle joue vraiment quelqu'un de normal dans le sens où clairement est affectée par la mort de son mari, clairement est affectée par le fait qu'elle est accusée de meurtre, qu'elle l'ait commis ou pas ce meurtre-là. J'imagine, c'est pas une tueuse au sang-froid imperturbable. On est vraiment, même si elle a commis ou non le geste, poser ou non le geste, ça va l'affecter. Elle n'a pas tué, elle n'est pas une tueuse en série. Bon, tu comprends un peu, là, je m'en vais, là, mais...
Mm-hmm.
Donc, de pouvoir jouer ça sans tomber dans l'excès, parce qu'elle tombe jamais vraiment dans l'excès, c'est... Il y a vraiment un niveau de jeu qui est très, très intéressant. Et je pense que c'est ça aussi l'attrait de ce genre de cinéma-là, c'est que c'est des personnes qui ont l'air réalistes. Ça pourrait être, bon, moi, je connais pas d'autrice à succès qui habite en Savoie, là, mais ça pourrait être quelqu'un, tu sais, bon, de connu, de relativement connu ou pas, ou un peu moins, mais qui, d'un coup, on se dit, ah, est-ce qu'elle a tué son mari? Est-ce qu'elle a tué ça? Bon. Et là, on pourrait pas savoir parce que, bon, il y a des incertitudes, elle va mentir quelquefois. Est-ce qu'elle a menti pour se protéger? Est-ce qu'elle a menti parce qu'elle est nerveuse? Est-ce qu'elle a menti parce que sur le coup, elle a oublié quelque chose? Et là, bon, il y a toutes sortes de détails qui sont ressortis dans le cadre du procès pour dire, non, non, c'est vous, tel événement, bon, qui s'est produit, ça prouve que vous allez commettre le meurtre ensuite. Puis là, tu te demandes, ben, si c'est ça les seuls éléments dont on dispose, peut-être qu'effectivement, elle est coupable. Mais est-ce que c'est la vérité? Donc, il y a une discussion, d'ailleurs, très, très intéressante, on n'a pas trop de détails, mais vers la fin du film, avec le fils et une espèce travailleuse sociale, ou en tout cas, quelqu'un qui était signé par la cour. Parce que là, bon, la mère habite avec son fils est un témoin important pour le procès. Il faut qu'il y ait une séparation un peu des témoins, en tout cas du témoin puis de l'accusé. Et là, bon, il y a une discussion entre cette travailleuse sociale-là et le fils puis sur la question de la vérité. Et je trouve ça très intéressant qu'un garçon de 11 ans qui se retrouve être un peu au centre d'un procès pour le meurtre de son père par sa mère ait des questionnements sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Bon, ma copine philosophe pourrait probablement parler pendant des heures de la vérité, mais je trouve ça intéressant. Puis c'est des choses qu'on se demande, effectivement, on n'est pas dans un film classique de poursuite devant les tribunaux ou de procès. Là, c'est vraiment, tout est un peu en zone grise.
Mm-hmm.
Et on se demande encore une fois jusqu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé pour vrai?
Puis aussi par rapport à la vérité, il y a le fait que l'accusé, c'est une écrivaine, et en plus, la victime, son mari, lui aussi, il essayait d'être un écrivain, mais mm-hmm. Elle, c'est une écrivaine à succès, lui, c'est un peu un écrivain raté qui a jamais publié. Et dans les deux cas, c'est des personnes qui s'inspirent de leur vie pour écrire ou tenter d'écrire des romans. Et il y a toute la notion de... Justement, la vérité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui devient de la fiction, puis c'est tout embrouillé. Fait que à travers le procès, c'est abordé d'ailleurs par les avocats pendant le procès, est-ce que ce qu'elle écrit dans ses romans, dans le fond, c'est ce qu'elle pense vraiment, ou est-ce que ça devient de la fiction? Puis en même temps, tu sais, on peut spéculer que quand les gens témoignent à la cour, est-ce qu'ils sont vraiment en train de dire la vérité, ou est-ce qu'ils sont en train d'un peu inventer des histoires ou modifier la vérité pour que ça convienne mieux à ce qu'ils essaient de faire passer comme comme témoignage? Fait que tu sais, il y a beaucoup d'ambiguïté aussi à ce niveau-là.
Oui, oui, absolument. Puis bon, aussi que, ben, par exemple, il y a un témoignage, puis encore une fois, j'essaie de pas trop en dire, mm-hmm. mais il y a un témoignage d'un psychologue. Le mari consultait un psychologue, et le psychologue a un jugement qui donne à la cour, mais le psychologue n'a que la version du mari. Mm-hmm. Tu sais, moi-même, je consulte un psychologue, ben, ce psychologue-là a une vision de ma vie et de ma relation de couple qui est pas celle qu'il pourrait avoir si effectivement il arrivait puis il posait des questions à ma conjointe. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que la vérité? Puis quand c'est pas évident, quand c'est pas noir ou blanc, ben évidemment qu'il y a de la spéculation, puis évidemment qu'il y a des interrogations. Puis il y a une scène d'ailleurs qui, je trouve ça assez particulier parce que pendant le procès, l'accusée est chez elle, elle est pas en prison. Ils ont jugé en début du film, bon, qu'elle était pas à risque de s'enfuir, tout ça, donc ils l'ont libérée sous caution. Et là, elle écoute une émission de débat à la télé où ils parlent du procès. Et là, il s'appuie justement sur ses livres à elle pour dire « Non, non, elle a tué son mari » ou « Telle affaire » ou « Tel roman » laissant entendre que, bon, elle pouvait être violente. Ça me rappelait un peu, je sais pas si tu te rappelles, dans Les Chambres rouges, à un moment donné, il y a une discussion à savoir si l'accusé avait effectivement un tueur en série.
On voit là, comme un talk show. Puis
ouais, ouais. Un peu comme Tout le monde en parle, mais un peu plus trash.
Ouais, ouais.
Puis donc, ça aussi, là, tu sais, tu te dis, bon, ben, dans le cadre d'un procès, c'est facile de dire j'ai une opinion, puis là, bon, je la donne. Sur quoi ça se base? Bon. Bref, est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être, parce que bon, on dit beaucoup, beaucoup de bien du film depuis le début, avec raison, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui t'a peut-être un peu plus rebuté? Y a-t-il quelque chose que tu aurais changé, amélioré, transformé?
Ben, comme je disais au début, c'est un film que j'ai adoré, que j'ai même dit que c'était un grand film. Donc, il y a pas grand-chose que je changerais. Peut-être juste un petit truc, puis c'est vraiment, c'est pas un détail précis, c'est vraiment plus une impression. La durée de 2h30, tu sais, j'ai été captivé pendant le film, tout ça, mais quand même, par moments, c'est comme, ah, OK, c'est quand même un long film.
Oui.
Puis, tu sais, quand c'est un long film, on se pose quand même la question, est-ce que ça aurait pu être resserré un petit peu au lieu d'être 2h30, d'être 2h15, peut-être même 2h, je sais pas. Puis, tu sais, c'est comme je dis, c'est pas, telle scène, il faudrait absolument la couper, ça sert à rien, tout ça. Vraiment pas. Je pense que tout est nécessaire, mais dans le rythme, c'est un film, c'est ça, qui est quand même relativement lent.
Oui.
Et c'est ça, mais c'est vraiment un... Je le dis parce qu'on cherche toujours, est-ce qu'il y a un petit bémol, tu sais, quand selon la notion que rien n'est parfait ou presque. Fait que je le mentionne, mais tu sais, c'est... Ça reste un film qui est captivant, même sur 2h30. Là.
Oui, absolument. J'allais faire une blague en disant « Rien n'est parfait, sauf l'épisode 1 de Star Wars », mais c'est tout à fait faux. Seigneur. Enfin. Non, t'as raison. Peut-être qu'on aurait pu resserrer un tout petit peu. Mais, comme je mentionnais tout à l'heure, ça se veut, je pense, réaliste. Je le mentionnais aussi plutôt dans l'épisode. Il y a des moments où les questions m'ont mis un peu hors de moi là pour le procès, mais évidemment, je pense que c'est l'objectif de la chose. Ça me faisait toujours un peu rire. C'est arrivé force une fois ou deux dans le film où là, tu sais, c'est des questions de non, vous l'avez tué, vous êtes, ça prouve que vous étiez bon. J'ai pas de truc en tête qui me revient, mais tu sais, ça prouve que vous avez tel trait de personnalité, puis donc vous avez tué votre mari. Là, tout de suite après, c'est la juge qui dit bon week-end tout le monde, on se revoit lundi. Puis voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça coupe vraiment le côté dramatique, mais en même temps, ça reste excessivement dramatique. Tu es jugé pour avoir potentiellement tué quelqu'un. Si tu es reconnu coupable, ben tu t'en vas en prison. Puis pour assez longtemps d'habitude. Donc, c'est un clash que je me disais, voyons, on est-tu dans...
Mais c'est vrai, l'attitude de la juge, ça me fait penser aussi une des scènes les plus fortes du film. À un moment donné, je pense pas vraiment que c'est un divulgateur, mais il y a comme un enregistrement qui est soumis en cours,
oui.
un enregistrement d'une dispute entre le mari et son épouse, donc entre la victime et l'accusé. Puis c'est une dispute qui est quand même, qui devient très violente. Il y a des, non seulement dans les mots qui sont échangés, c'est très dur, mais aussi éventuellement ça devient un peu au cou. On entend des bruits de ça devient physique. Et justement, après l'enregistrement, ça coupe à la juge qui est comme « bon ». Tu sais, ça m'a fait penser à ce que tu disais. Voilà. Il y aura un côté « bon ». Tu sais, nous, on est super traumatisés par ce qu'on vient d'entendre, mais la juge, tu sais, j'imagine que pour elle, ben, c'est un autre jour au bureau, là. Puis bon, il y a des témoignages super violents, il y a des preuves traumatisantes, mais pour elle, c'est quand même banal, là.
Voilà. Mais c'est drôle parce que ce moment-là, où on nous dit que le mari a tapé dans le mur. Moi, j'ai imaginé Adam Driver dans Marriage Story. Fait que le mime, là. Donc,
D'ailleurs, tu mentionnes à la blague, mais il y a quand même une certaine parenté qu'on peut trouver entre Anatomie d'une chute et Marriage Story. Même si Marriage Story, ben, c'était un peu, il y avait des avocats, il y avait des trucs comme ça, mais c'était pas tout à fait un gros procès, là. Mm-hmm. Mais il y a quand même le côté, dans les deux cas, c'est vraiment, avant tout, je pense, un film qui est comme l'autopsie d'un mariage, là, tu sais.
Oui. Non, absolument. Puis bon, évidemment, c'est présenté de façon différente, là.
Oh, oui.
Mais non, t'as raison, parce que c'est une relation qui... C'est pas du jour au lendemain, je découvre que tu m'as trompé avec le jardinier, je te quitte, puis là, tout s'effondre. Puis sous le coup de la colère, tu m'assassines. On n'est pas dans le cliché du tout. Et à chaque fois, c'est quelque chose qui s'effrite. Et je pense que c'est important d'avoir des films comme ça où, pis c'est pas les premiers, ça sera certainement pas les derniers, mais où la relation s'effrite pour pas vraiment des raisons spécifiques ou des petites affaires. Et comme je disais tout à l'heure, qu'on laisse aller et qu'éventuellement, là, ça coince. Ça peut coincer après plusieurs années. Et soudainement, ça pète parce que tu gardais tout ça en toi puis t'en parlais pas ou tu pensais pas que c'était le bon moment pour en parler ou parce que t'avais pas envie d'en parler parce que c'est un truc difficile. Mais c'est ça, ces petits irritants-là dans une relation qui sont tout à fait normaux. C'est pas vrai que tu peux avoir une relation, je sais pas depuis combien de temps toi t'es avec ta conjointe, mais c'est pas vrai que ça va toujours être extraordinaire, fantastique, merveilleux pendant plusieurs années. Si c'est le cas, il y a peut-être quelqu'un qui ment quelque part. C'est sûr qu'on souhaite que tout se passe bien. Je suis pas en train de dire c'est normal que ta relation pète puis bon, hop la vie là. Mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Oui, il y a comme c'est année, ça. Puis ça... aussi c'est tout le temps de l'interprétation puis les différents points de vue comme le mari dans le film est vraiment frustré contre sa femme puis il lui en veut, il reproche plein de choses mais c'est toujours de son point de vue à lui.
Oui.
Je pense que une des questions principales c'est que dans le fond lui il est malheureux, il est vraiment malheureux et il blâme sa femme pour tout ce qui va mal dans sa vie mais est-ce que c'est vraiment la faute de sa femme ou c'est juste que lui, il est malheureux puis dans le fond, c'est il partage sa vie avec elle, fait que c'est la personne où c'est plus facile de dire, au lieu de dire « Ah, c'est de ma faute à moi, j'ai fait telle mauvaise décision », c'est plus facile des fois de pointer quelqu'un d'autre du doigt, tu sais.
Ou le pire qui peut arriver aussi, c'est pas vraiment la faute de personne.
Ouais.
Les circonstances ont fait en sorte que ça t'es pas bien, t'es malheureux. Et là, c'est difficile parce que c'est tentant de blâmer quelqu'un d'autre. Puis à la limite, ça peut être tentant de se blâmer aussi. Mais quand c'est pas vraiment la faute de personne, ou en tout cas principalement la faute de quelqu'un, puis là, tu te dis, bon, ben qu'est-ce que je fais? Comment j'agis? Comment je change les choses? Et, tu sais, bon, dans le contexte du film, leur enfant, c'est ça, il y a un accident... quand il était jeune, devenu aveugle. Bon, il y a tout ça aussi. Tu as la pression de faut que je prenne soin de mon enfant qui est handicapé, qui est victime de cécité. Ben là, à ce moment-là, c'est un fardeau de plus. C'est vraiment, en tout cas, chapeau à Madame Triet, et j'essaie de trouver rapidement le nom du co-scénariste, Arthur Harari. Donc, on les salue parce que vraiment, le scénario de ce film-là, donc Anatomy of a Chute, là, c'est vraiment superbe. J'imagine que tu recommandes le film.
Oui, je recommande fortement. Puis, je voulais embarquer aussi, tu étais dans les salutations.
Ouais, ouais.
Faut mentionner le jeune acteur qui joue l'enfant, Daniel. Oui. Il s'appelle Milo Macado-Graner. Mm-hmm. Je sais pas si je prononce bien son nom. Mais c'est vraiment, tu sais, souvent, les enfants acteurs sont pas toujours bons, mais lui est vraiment exceptionnel. C'est toute une performance. Puis, en plus, il joue un enfant malvoyant. Fait que ça, c'est une chose, mais aussi dans la façon qu'il s'exprime et les scènes où il témoigne en cours, j'ai vraiment été abasourdi, vraiment impressionné par son jeu. Autant Sandra Hüller, qui joue sa mère, est extraordinaire. Ben lui, il est aussi bon, là.
Oui, absolument. Et t'as raison de dire que les enfants acteurs, on sait pas non plus si... Moi, j'ai pas de souvenir de comment j'étais à 11 ans. Je pourrais pas dire si j'étais d'une éloquence particulière. Je faisais le gag récemment, je suis avec mon père, on allait prendre une bière, puis on parlait de ses petites filles à lui, puis qui sont mes nièces. Et la plus vieille a 5 ans, bon, c'est bientôt 6. Puis je faisais le gag de « on commence enfin à comprendre ce qu'elle dit ». Bon, il y a un peu de vérité là-dedans aussi, là, mais elle s'exprime quand même assez bien. Mais tu sais, je pourrais pas dire... Évidemment, moi, j'ai jamais vécu ça à 11 ans, de dire, encore une fois, « mon père est mort, c'est peut-être ma mère qui l'a tué, il faut que je témoigne au procès ». Puis là, comme on mentionnait, il y a les questions de « qu'est-ce que la vérité ?» tu as raison de dire, bon, t'es excellent acteur, mais est-ce qu'on aurait pu lui dire joue quelqu'un qui est pas trop sûr de lui ou joue quelqu'un qui... à quel point est-ce que c'est l'enfant, le talent de l'enfant qui est limité dans une certaine perspective ou à quel point est-ce que c'est le rôle qu'on lui donne ou l'enfant qui est joué par l'acteur, lui aussi, c'est bon. C'est vraiment, vraiment spécifique là, comme questionnement. Mais bref, tu as raison de le dire, excellent acteur. Puis vraiment, c'est ça. C'est...
Oui. Dernière salutation.
Oui.
Le chien, il y a un chien dans le film, le chien est vraiment bon.
Ah, le chien. Ah, misère. Non, c'est vrai, puis t'as envie de... j'ai beaucoup d'amour pour les animaux de compagnie, là. Puis non, le chien, t'as le goût de le flatter, effectivement, puis à un moment donné, il se passe quelque chose, puis t'es comme, non, le chien! Bref.
Non, puis on dira pas ce qui se passe, mais non. À la fin du générique, ça dit « aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage
okay. ».
Et j'étais content parce que c'est ça, il y a des bouts que c'est assez dur de voir ce qui se passe avec le chien.
Oui, puis on parlera pas de cette fameuse scène-là parce qu'il y a quelque chose qui nous ramène à la vérité, c'est tout ce que je veux dire, la question de la vérité. Peut-être qu'on s'en parlera là, après l'épisode, mais c'est ça, il y a ce bout-là. C'est peut-être mon point où j'aurais accroché cette fameuse scène-là. Évidemment, je peux pas en parler parce que ça gâcherait le punch. Mais bref, il y a ce moment-là, j'étais comme, voyons, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi telle personne a fait telle chose? Mais bon, voilà. Il y a un chien, on a un goût de le gratter derrière les oreilles. Je pense que c'est ça. Donc, tu disais, avant qu'on parle de toutes sortes de choses, donc c'est ça, tu recommandes le film?
Oui, absolument. Là. C'est la Palme d'Or et c'était... J'ai pas vu, évidemment, tous les films qui étaient présentés à Cannes, mais j'assume que ça devait être mérité, que c'est quand même un film très supérieur à la majorité de ce qu'on voit. Là.
Mais j'avoue que ça aussi, c'est le questionnement. T'es peut-être que si on voyait les autres films, on se dirait donc tel autre mérite plus la Palme d'Or que celui-là. Nonobstant la Palme, Anatomy d'une chute, je pense que c'est un excellent film, tout comme toi, là, sans aucun doute. Ça vaut la peine d'être vu. Je pense qu'on l'a mentionné assez souvent, mais j'aime vraiment cette idée-là de brasser un peu la cabane en termes de films de procès, de films d'enquête, vraiment changer, puis sans nous dire encore une fois, c'est la révélation, la dernière seconde, on a trouvé l'arme du crime ou quoi que ce soit. C'est vraiment, j'aime la façon dont c'est fait, et c'est sûr que je veux pas que ça, là, mais plus, s'il vous plaît, plus de films de ce genre-là, on aime ça, c'est le fun, c'est bon, c'est agréable à regarder. Donc voilà, Anatomie d'une chute, ça sort vendredi, voilà, le 27 octobre, un peu partout au Montréal, donc allez voir ça en salle. Vous pouvez toujours évidemment attendre qu'ils se rendent en service de diffusion en ligne. J'imagine que ça ne devrait pas trop tarder non plus. Quelques mois peut-être plus tard, là, ça sera disponible. Évidemment, il va clairement être vendu en DVD, Blu-ray, toutes ces sortes de choses. Ben Kevin, merci d'avoir été avec moi pour se parler d'Anatomie d'une chute.
Merci à toi. C'est un épisode un peu plus long que notre demi-heure habituelle, mais je pense qu'il y avait beaucoup de thèmes à aborder.
Oui, oui, absolument. Puis bon, quand on a le temps de le faire, faisons-le, prenons le temps de bien faire les choses, un peu comme Manon Triet d'ailleurs. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour le dernier voyage du Déméter, donc conclure notre combo halloweenesque. Puis ensuite, ça va bientôt être le Noël. As-tu déjà acheté ton sapin, Kevin?
Ben, veux-tu une anecdote? Nous, on a un sapin synthétique, en oui. plastique, puis on est un peu paresseux des fois, puis il traîne chez nous, genre, tu sais, oui. on est rendu, je sais pas, mars, avril, le printemps.
Oh, oui.
Notre sapin est encore là. On est rendu fin octobre, puis on l'a jamais défait. Puis je pense que rendu là, ça vaut pas la peine de le défaire pour le remonter dans un mois. Fait qu'il va avoir passé l'année au complet chez nous.
Écoute, c'est un tour du compteur. Ça, on va le signer comme ça. Nous autres, on achète sapin naturel depuis... en fait, avant, j'avais pas du tout de sapin. Et ça fait, je pense, 2 ans qu'on achète un sapin. La première année, ils en vendent en face de chez nous, là, directement. Mais la deuxième année, il y a un service auquel tu peux faire appel. C'est des sapins un petit peu moins beaux, mais sont vraiment, ils viennent de... C'est pas des pépinières, c'est vraiment sauvage, je sais pas comment ils appellent ça, là. Bref, on était très contents, c'est pas très cher. Puis bon, évidemment, après ça, il faut que tu le sortes quand il est temps, là. Mais non, on est très contents, puis c'est toujours bien de décorer. Puis c'est bien parce que le chat ne jette rien par terre, donc ça aussi, ça fait du bien. Donc voilà, mais je parlais des décorations de Noël, c'est parce que effectivement, semble-t-il que c'est déjà sorti chez Costco et ailleurs, là, décorations de Noël. Puis je suis un petit peu agacé parce que bon. Peut-on passer l'Halloween avant, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Mais bref, voilà. Fait qu'on se retrouve, je disais, la semaine prochaine pour la fin de notre duo Halloween. En attendant, ceux qui nous écoutent, ben écoutez, merci encore une fois d'être là. C'est toujours, toujours un plaisir de faire ça avec vous et pour vous. Si ça vous tente de retrouver les autres épisodes, on en a maintenant là d'une centaine. Tout ça, c'est sur pieuvre.ca, bien sûr. On est également sur Spotify et Apple Podcasts. Avant de vous laisser, je vous invite, comme toujours, vous abonner à l'infolettre de Pieuvre. Ça vous évite les algorithmes, la potentielle censure, tout ça. Ça vous donne accès à l'ensemble des contenus publiés chaque semaine sur le site, donc les articles, les critiques, bien entendu, les épisodes de podcast. Pour vous abonner, c'est très, très simple. Vous allez sur le site, dans la colonne de droite, il y a un formulaire à remplir. Ça prend environ 5 secondes. C'est gratuit. Et donc, c'est ça, c'est livré chaque samedi matin directement dans votre boîte de réception. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.